Les chemins de traverse, il était une fois une fée jaune, la gentiane. Une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue en Pays gentiane. Depuis le début de cette série des chemins de traverse consacrés à la fée jaune, la gentiane, nous sommes au pied du massif du Sancy, à Picherande, à la limite de plusieurs territoires. De ce camp de base, nous avons vécu la fête de la gentiane et découvert au fil des rencontres cette plante emblématique du massif central qu'est la gentiane. Tout un territoire, un patrimoine naturel et historique, ainsi que des savoir-faire anciens et récents, nous ont été révélés. Pour la poursuite de cette aventure, initiation à la gentiane, nous changeons de camp de base et rejoignons plus au sud, au pays gentiane dans le Cantal, le petit village d'Apchon, à 4 km de Rion-Es-Montagne, la capitale du Bleu d'Auvergne. D'Apchon, je vais vous emmener au fil des rencontres au pays de Salaire, à Aurillac, à Rion-Es-Montagne et sur le plateau du Cézallier. Allez, sans plus tarder, je vous invite à flâner dans Apchon, où un beau patrimoine bâti et naturel s'offre à nous.
Nous sommes à Apchon, à 5 km de Rion-Es-Montagne environ, sur le plateau, et Apchon se trouve entre Rion et Allanche. Alors bien sûr, Allanche est beaucoup plus loin, puisque c'est à peu près une trentaine de kilomètres, et ça se trouve avant la bifurcation aussi de la route qui va sur la vallée de Cheylade, vallée de Cheylade qui mène au Puy-Marie. Alors nous sommes sur la place du village, nous passons devant la fontaine, la très belle église d'Apchon du 12e et 15e siècle. Et nous allons donc monter au haut château d'Apchon. Alors, au château, c'est un grand mot parce qu'à notre époque, il ne reste plus qu'un pan de mur. Il a été complètement démantelé fin 18e et 19e. Alors, démantelé parce que, bon, comme dans beaucoup de châteaux à cette époque-là, les pierres ont été récupérées, entre autres par les habitants, pour leur habitation. Ainsi, comme l'a dit une dame du village, certaines cheminées du château se retrouvent carrément dans certaines habitations, et des linteaux également ornent certaines habitations du village. Voilà, donc nous sommes à la sortie du village, sur la rue de la Porte du Bar. Et sortie du village, donc, où il y a un petit panneau, alors qui est vieux, je peux vous dire que celui-là, il date un mouvement historique et site ruine du château d'Apchon, qui nous invite à prendre le chemin qui grimpe au château, aux ruines du château, comme c'est marqué sur le panneau. Allez, il ne nous reste plus qu'à attaquer l'ascension. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Attention, troupeau qui tond la pelouse paisiblement. C'est vrai qu'on entend les sonnailles. Ouais, il y a la présence donc d'un troupeau de brebis, donc c'est pour ça que le portail est fermé. Nous allons l'ouvrir. Et voilà. Allez, château. Petite sente sur la gauche. Nous sommes devant une belle table d'orientation en céramique. L'altitude, nous sommes à 1119 mètres. Alors, à l'ouest, tout à l'ouest, le plateau de Mille Vaches, après l'Artense, et puis les monts du Mont-d'Or face à nous. Après, plus à l'est, les monts du Cézallier, puis la vallée de l'Alagnon, et plein est, la Margeride, avec d'abord au premier plan le plateau du Limon. Une très très belle vue, on a une vue, c'est magnifique. C'est dégagé, et du contraste. On voit vraiment les massifs, les monts d'Auvergne, les monts d'Or. Et on voit vraiment bien, au niveau des monts du Cézallier, le mont Chamarou, à 1476 mètres. Et on voit également le signal du Luguet, 1551 mètres. Ah, il y a un bel éclairage. Hein. Allez, il n'y a plus qu'à faire l'ascension pour monter aux ruines du château. Ah, il y a des brebis, deux moutons noirs, un mouton marron. Ouais, te dérange pas surtout. Hein. Oh, pas sauvage, on peut même les caresser. Et nous voilà dans le château. Du moins ce qu'il en reste. En fin de compte, il reste deux pans de mur qui font à elle. Donc un pan de mur plein nord, direction les monts d'Or, et un pan de mur plein est, à quelque chose près, direction la Margeride. Et dans le L, les vestiges d'une tour. Oh, une vue magnifique, une vue à 360, c'est un régal. C'est sacrément boisé autour d'Apchon quand même. Alors après on voit bien que ça devient des plateaux, dès qu'on prend de l'altitude. Ah mais t'as, là c'est, on va dire presque la seule pièce qui reste. Oh, c'est une tour. Les brebis doivent dormir là la nuit. Ah, ils avaient une sacrée vue. Enfin, nous avons toujours une sacrée vue d'ailleurs. Ah, c'était un château vraiment construit sur les ports en rocheux. Ah, la vue est vraiment magnifique. Ça vaut le coup d'œil. Si vous passez à Apchon, arrêtez-vous surtout et montez au château, aux ruines du château. Rien que pour la vue sur les environs. Rien que ça vaut le détour.
Un peu d'histoire.
Le château d'Apchon est un ancien château médiéval qui appartenait à une des plus puissantes familles de la Haute-Auvergne. Il est situé sur un puèche dominant le village. La construction de ce château fort a débuté au XIe siècle et s'est achevée au XVIe siècle. Le château est posté à 1100 mètres d'altitude et ainsi il domine plusieurs vallées, celle de la Rue, celle de la Santoire et celle de la Marilloux. Entre 1408 et 1422, détruit, il fut reconstruit avec une enceinte de 5 tours rondes et de 2 tours engagées. C'est en 1760 que le château ne fut plus habitable après avoir subi un incendie.
Allez, il ne nous reste plus qu'à redescendre au village. Hein. C'est parti.
Après cette balade dans Apchon, je vous invite à me suivre pour rejoindre Salers. Depuis Apchon, nous descendons à Rion-Res-Montagne où nous prenons la route de Mauriac. Sur le trajet, même si cela fait faire un petit détour, je vous invite à faire deux haltes. La première à Menet, un joli petit village de caractère avec son lac de l'ère glaciaire, et à Auxerre, où la famille propriétaire, la même depuis le XVe siècle, se fera un plaisir de vous faire visiter leur château. Après Auxerre, nous prenons la direction d'Anglars-sur-Salers, puis Saint-Bonnet-de-Salers, et nous voilà à Salers. À Salers, village fortifié remontant au Moyen-Âge, remanié à la Renaissance, nous allons y rester le temps de 3 rencontres. Salers, où je vous invite à déambuler dans les ruelles typiques avec leurs belles demeures et à aller jusqu'à l'esplanade de Barouze pour profiter du paysage et de la vue sur les vallées de la Maronne et de l'Aspre. Et en flânant dans les ruelles, vous arriverez forcément à un moment ou à un autre devant l'atelier de la coutellerie du Viking.
Franck Paul, artisan coutelier. Mon atelier dans le village se situe pas tellement loin du parking gratuit à côté de la boulangerie.
La situation est faite, donc vous êtes coutelier et vous avez une particularité. Bon, vous êtes sur un terroir qui le permet parce que c'est la région de la gentiane. Vous utilisez la racine de gentiane pour vos couteaux, pour faire les manches. Comment vous est venue l'idée d'utiliser cette racine ?
Eh bien, je cherchais une ressource locales. J'utilisais déjà de la corne de salaire, c'est quelque chose qui est connu dans le milieu, alors que la racine de gentiane, jusqu'à présent, personne ne l'utilisait. Donc ça a permis de développer un manche de couteau que personne n'avait jamais vu, et on a sorti un couteau qui est très rustique, qui a énormément de caractère.
Mais alors, la racine de gentiane, bon, quand on voit, c'est quand même c'est gros, ça peut peser plusieurs kilos. Je suppose que vous achetez la racine intégralement ou est-ce que vous avez des parties? Et puis je pense que dans cette racine, tout ne convient pas pour faire vos manches de couteau.
Alors déjà, nous, moi, je cherche surtout des très grosses racines. Au minimum, une racine qui est à peu près entre 40 et 50 ans. Parce qu'il me faut un diamètre conséquent au niveau du manche. Après, je cherche les parties les plus droites, les plus rectilignes. Mais bon, dans la racine, c'est toujours un peu tortueux, donc c'est compliqué. Et on fait déjà une présélection avec l'arracheur de gentiane, de façon à pouvoir voir un peu qu'est-ce qui va m'aller, qu'est-ce qui va pas m'aller. Parce que moi, la racine, je l'utilise strictement que pour les manches de couteau. Alors que lui, après, tout le reste, ça peut être utilisé pour les liqueurs, les choses comme ça. Moi déjà, au niveau de tout ce qui est chute de gentiane, pour éviter d'avoir trop de pertes, une fois que j'ai découpé mes rondins que je vais envoyer en stabilisation, donc avec une résine époxy si vous préférez, toutes les chutes, je les conserve et je les donne à chaque client qui m'achète un couteau. Comme ça, au moins, ils ont un morceau de racine naturelle et s'ils veulent se faire une petite bouteille de liqueur, ils peuvent se faire une bouteille de liqueur. Donc en gros, il y a, avec chaque couteau, un morceau de racine brute. Et après, les gens, j'ai mis une recette à l'intérieur, ils peuvent faire la recette ou autre qu'ils trouveraient sur Internet.
Ah, c'est une bonne idée, ça. Le petit pochon avec la racine.
C'est surtout pour éviter de gâcher la ressource.
Oui. Puis ça permet à la personne d'être contente de repartir avec son petit morceau de racine. Alors, par rapport à cette racine, une fois que vous l'avez récupérée, il y a un procédé où vous pouvez la travailler de suite, où il faut la faire sécher, il faut la traiter. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose à faire ?
Oui, il y a plusieurs étapes à respecter. La première, c'est laisser sécher la racine, parce qu'une racine, en séchant, ça va ramener le bois sur lui-même. Et après, je pourrais plus facilement le faire stabiliser. C'est-à-dire que la stabilisation, c'est un processus qui consiste à amener une résine époxy avec le bois. Comme ça, le bois se gorge, entre guillemets, d'époxy. Et une fois que l'époxy va sécher, le bois est stabilisé. Il ne bougera plus, il ne va pas prendre l'humidité. Enfin, même s'il prend l'humidité, il ne va pas gonfler, il ne va pas se détériorer, il n'y aura pas d'entretien au niveau du bois. Parce que si jamais je montais directement le manche avec la racine brute, la première goutte d'eau qu'elle va prendre dessus, elle va gonfler. Donc, c'est pas possible. Donc, je suis obligé de passer par l'étape de stabilisation. L'inconvénient, c'est qu'en passant par l'étape de stabilisation, on n'a plus le côté odorant de la racine. Ça n'existe plus. Et on a une altération, entre guillemets, de la couleur. C'est-à-dire que la racine sèche est plutôt dans les jaunes clairs, jaune-orangés, alors que la racine, quand elle est stabilisée, on est plus sur un orangé un peu plus prononcé, voire carrément un brun. Donc on n'est pas sur les mêmes couleurs. C'est normal, c'est le processus de stabilisation. C'est plus un bois naturel quand je le travaille. Ça devient un bois stabilisé, comme j'ai l'habitude de travailler d'autres bois stabilisés.
Qu'est-ce que ça apporte par rapport au manche d'utiliser la racine gentiane par rapport à un autre bois ou autre ?
On aura automatiquement un couteau qui sera unique. J'ai beau vous chercher de la racine droite, elle n'est jamais droite. Donc automatiquement, à la sortie, si je fais bien mon travail, on a vraiment l'impression d'avoir une racine en termes de manche. Donc le truc, c'est que chaque couteau va dépendre de la main aussi qui va le manier. C'est-à-dire qu'il y a des couteaux qui vont bien aller à certaines mains, d'autres qui vont pas aller à d'autres mains, à cause de la racine. C'est la racine qui va vraiment tomber dans la main. Donc soit le couteau va vous aller de suite et ça va être nickel. Par contre, s'il ne vous va pas, il ne vous ira jamais. Parce que c'est vraiment la racine qui va choisir, entre guillemets, la main qui va le manier.
Donc c'est presque le couteau qui vous choisit, en fin de compte.
Ça a toujours été comme ça. C'est toujours comme ça. Si jamais vous vous basez sur un couteau pour l'utiliser, c'est le couteau qui vous choisit. Parce que chaque main est différente. Sachant que je façonne mes couteaux à la main, chaque couteau est différent. Il y a plus ou moins d'épaisseur au niveau des manches. Donc ça va aller à certaines mains, pas à d'autres. Et la racine, ça exacerbe le phénomène parce qu'il y a le côté noueux de la racine. Il suffit qu'il y ait un nœud ou une bosse qui aille à certains endroits et qui rentre dans la main et que ça sera agréable pour certaines personnes. Pour d'autres, ça sera désagréable. Ça permet vraiment encore de plus sélectionner... d'avoir un peu plus de sélection au niveau du couteau, tout simplement. Sur le couteau fini, moi, je cherche à avoir la texture de la racine pour avoir la couleur et pour avoir le côté, justement, terreux de la racine.
Le décor est posé avec une utilisation atypique de la gentiane. Au revoir et à très bientôt pour la suite de notre rencontre avec Franck, coutelier à Salers.